Antoinette Lemmens, vous, vous êtes partisane du fait, évidemment, que l'être humain reste un être humain et qu'il a besoin d'émotions. En quoi est-ce que la réalité augmentée dont on parle ce matin peut être une aide, peut-être un plus ?
La réalité augmentée doit servir le magasin ou le lieu de vente pour améliorer toute l'information qu'il peut en tirer par rapport à la data. Ce qui est intéressant, c'est comment ça a optimisé ce que j'appelle le brick and mortar. C'est-à-dire, je prends l'exemple de Nike, qui a récupéré toute la data de ses meilleurs clients des Nike Plus. Et en récupérant toutes ces informations, ils ont créé un magasin à Los Angeles pour leur cible, c'est-à-dire pour leurs clients. Donc, c'est devenu un vrai service pour leurs clients. Et à l'intérieur du magasin, vous avez tout ce qui est acheté par cette cible-là sur Internet ou dans les autres magasins. Donc, ils ont créé quelque chose pour leur cible. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas nécessairement du luxe, mais quelque part, c'est un positionnement luxe qui est intéressant par rapport à leurs clients. Donc là, c'est un exemple type comment la réalité augmentée a aidé les magasins. Maintenant, parlons un petit peu de tout ce qui est émotion et expérience. Et j'utilise le mot émotion exprès parce qu'une expérience, c'est une chose, si cette expérience peut être bonne ou mauvaise. Donc, de faire très attention que le côté humain, le côté émotionnel et personnel soit en haut de la liste. Je ne sais pas si vous connaissiez cet hôtel qui avait été créé au Japon, qui a grande pompe, l'hôtel complet était organisé avec des robots. Il n'y avait pas de personne du tout.
Oui, mais sauf que ça n'a pas marché.
Eh bien, voilà. 3 ans plus tard, les robots sont renvoyés pour manque de productivité. Et je dirais manque d'émotion, parce qu'en fait, ça ne marchait pas. Et pourtant, c'était beaucoup moins cher. Les hôtels au Japon sont chers. Et là, c'était un moyen de faire un hôtel moins cher. Mais en fait, même le prix n'a rien à voir s'il n'y a pas d'émotion humaine.
Anne-Laure de Broissia et Caroline Égal, retail augmenté, c'est expérience augmentée, ça doit apporter de la satisfaction, évidemment, mais encore plus, un mot, allez, prenons notre courage à deux mains et disons-le, le bonheur, puisque désormais, vous utilisez, vous, des sciences du bonheur. Alors, vous allez nous dire en quoi ça consiste, parce que ça paraît un peu théorique comme ça, vous nous direz plus tard en quoi ça consiste. Moi, je ne savais pas que l'expérience de luxe pouvait apporter le bonheur. Je dis bien le bonheur. Je savais que l'amour pouvait l'apporter, un bon job, un enfant, voilà. Mais pas ce dont on parle.
Alors, effectivement, c'est l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous expliquer comment les sciences du bonheur peuvent aider à créer une réelle expérience augmentée. Mais juste pour ancrer un petit peu les choses dans du concret, du point de vue vraiment de l'humain et du consommateur, et pour faire aussi prendre la suite des bons exemples partagés par Antoinette, on voulait revenir sur quelques exemples que vous avez peut-être en tête également, où on voit que là, on est plus que dans la satisfaction, dans la recherche de satisfaction. On est vraiment dans l'augmentation de l'expérience. À commencer, alors je ne vois pas bien ce qu'il y a derrière moi, mais c'est très bien. À commencer par le Crystal Studio de Swarovski.
C'est bon. C'est voilà, ça que vous avez bon, derrière vous.
C'est parfait. Qui a ouvert à Milan. Il y a d'autres ouvertures prévues à Paris et en Chine. En tout cas, ici, là, on est dans une immersion vraiment interactive, complète dans l'univers de la marque tout en paillettes, où le concept qui est vraiment high-tech travaille à la fois la fluidité de l'expérience, mais aussi la personnalisation, la possibilité de créer des looks, la possibilité de prendre conseil non seulement auprès des vendeurs, mais auprès d'influenceurs avec lesquels vous êtes connectés via des écrans digitaux.
On peut toucher ?
Alors, vous pouvez toucher, vous pouvez tout faire, vous pouvez composer vos bijoux. Il y a un Sparkle Bar qui vous permet de composer à la base, grâce sur la base des cristaux Swarovski, vos propres bijoux. Et vous avez aussi la possibilité de vous connecter avec d'autres, de votre communauté, de votre cercle, à travers l'envoi de gift cards. Donc, c'est très concret. Ça active aussi différents sens, différents drivers sur lesquels on reviendra un petit peu plus tard.
C'est-à-dire, on envoie, c'est la marque.
La marque qui vous permet d'envoyer des petits mots doux, des petits mots tendres, voilà, à travers finalement le messager de la marque. On peut se dire qu'on est dans quelque chose qui touche à la transformation de la cliente. Hein. On est au-delà du service, on est au-delà de l'expérience. C'est ce que Joe Pine, dans l'économie de l'expérience, nous explique, le stade ultime de l'expérience, qui est au titre de la transformation.
Qui laissera un souvenir.
Exactement, qui va laisser un souvenir. Et donc, du coup, cette idée de transformation va permettre vraiment aux marques de constituer, de transformer leur boutique dans quelque chose que nous, on aime appeler la fabrique à bonheur.
Et c'est vrai que vous pourriez vous dire en quoi, finalement, nous, marques, pouvons influencer le bonheur de notre cliente. En quoi, finalement, si ma cliente, quand elle arrive dans ma boutique, elle est dépressive, elle a une mauvaise journée, finalement, pourquoi moi, en tant que marque, je serais responsable de son bonheur. Et en fait, nous, ce qu'on pense, c'est qu'effectivement, en tant que boutique de luxe, c'est justement quelque chose qui est possible, que vous pouvez faire pour vos clients, et qui est d'autant plus possible que la réalité augmentée ouvre finalement le champ des possibles. Et c'est pour ça qu'on s'est intéressé aux sciences du bonheur. Alors, ces sciences, elles viennent essentiellement des États-Unis. Elles sont représentées dans les plus prestigieuses universités américaines, comme Harvard, Yale, Berkeley.
Ils ont tous, pas des moindres.
Pas des moindres. Ils ont tous un département de psychologie positive qui sont représentés par des éminents professeurs. On a une préférence pour Laurie Santos, qui est à Yale et qui fait un MOOC que vous pouvez d'ailleurs tous suivre, qui s'appelle The Science of Wellbeing et qui est d'ailleurs le cours le plus suivi à l'université de Yale. Donc tous ces gens ont mené plein d'expérimentations depuis 30 ans pour finalement comprendre ce qui rend heureux les gens heureux. Ils ont identifié ces drivers et qu'on pense qu'on peut utiliser en retail, qui vont être déjà l'altruisme, le fait d'être tourné vers les autres. C'est un des premiers drivers du bonheur. Ils ont fait des expériences, notamment sur des personnes qui prennent le métro, qui juste vont parler à quelqu'un dans le métro, comparé à d'autres qui vont vivre dans leur bulle. Si on leur demande s'ils se sentent, si on leur pose la question sur leur sentiment de bonheur, c'est ceux qui sont tournés vers les autres seront plus heureux. Il y a la gratitude, le fait d'exprimer sa gratitude envers quelqu'un, la personnalisation, le fait finalement de pas tout le temps utiliser les autres comme benchmark. Ça, c'est important aussi au niveau du retail. Finalement, tout ce qui est recentrer le benchmark sur la cliente elle-même sans la faire se comparer sans cesse aux autres, ce qui peut créer de la frustration. Et enfin, il y a un driver qui est très utilisé et qui est très important, qui est le savouring. Donc tout ce qui est savourer le moment présent, faire durer le plaisir, faire durer l'expérience, pour finalement lutter contre tout ce qui est de l'ordre de l'adaptation hédonique.
Quand on est sur l'expérience mindset, on est dans l'ultime personnalisation, hein, puisqu'on touche, finalement, on va toucher à quelque chose qui est extrêmement intime chez vous, c'est votre ressenti, vos émotions, qui sont quelque chose vraiment d'inconscient que vous-même ne maîtrisez pas, pour pouvoir vous dédier le parfum qui vous correspond le mieux, qui vous satisfera le plus et vous rendra heureuse. Donc tout ça, c'est des exemples très concrets de comment les sciences du bonheur prennent vie à travers les expériences. Après, il y a un autre sujet que je vais partager avec plaisir avec Anne-Laure, qui est sur l'enjeu de l'adoption. C'est-à-dire que toutes ces expériences, là, on vous a montré que des choses qui fonctionnent, qui sont magnifiques, qui sont impliquantes, mais il y a un enjeu d'adoption. C'est-à-dire que vous aurez beau créer la plus belle expérience, si votre consommateur n'arrive pas à, votre client n'arrive pas à se l'approprier, ou si même le vendeur, hein, le personnel de vente n'arrive pas à se l'approprier et à entrer en relation avec les clients à travers cette expérience.
La mesure de l'expérience est nulle à ce moment-là.
Voilà, l'expérience ne pourra pas vivre, donc et l'expérience est là pour être vécue. Donc je pense que ça, c'est.
Elle est donc inclusive.
Exactement. Et donc ça, c'est un point clé qui est un des challenges au succès des expériences augmentées.
De même, cet été, on était à Hong Kong avec Caroline à l'aéroport. on est allé dans un corner d'une marque de spiritueux. Le corner était juste magnifique. Sur le papier, tout était là pour une expérience incroyable. Il y avait un écran, une vidéo en 3D, un parcours didactique avec des écrans. On pouvait sentir, enfin,
goûter.
C'était, on pouvait pas goûter. Mais c'est vrai que c'était, on s'est dit, le corner est construit dans les règles de l'art. Sauf que rien de tout ça n'était utilisé, c'était complètement inanimé. Finalement, personne n'utilisait les écrans, personne ne regardait la vidéo. Et du coup, on s'est dit, ben, ok, sur le papier, on crée une expérience qui potentiellement peut créer du bonheur, mais en fait, si le vendeur n'est pas là, si le vendeur est pas, la force de vente n'est pas mobilisée un minimum pour justement nous faire vivre cette expérience, nous accompagner là-dedans, ben, finalement, il ne se passe rien. Donc du coup, c'est bien là qu'il y a vraiment tout un enjeu qui est de remettre de l'humain à la fois dans la conception même de tous ces outils, mais aussi dans le déploiement des outils. C'est essentiel finalement que le vendeur, l'humain, puisse aussi rendre toute cette réalité augmentée vivante.
Alors du coup, pour accompagner les marques à mieux intégrer, à assurer l'adoption, nous, on a des convictions qui sont largement influencées par d'autres sciences. On vous a parlé des sciences du bonheur. Mais là, on voulait dire un petit mot sur les sciences comportementales, donc, qui sont vraiment clés pour influencer les comportements et les processus d'adoption de nouvelles habitudes. Alors, peut-être quelques mots sur les sciences comportementales, parce que vous n'y faites peut-être pas référence tous les jours dans vos missions. En tout cas, elles ont été reconnues académiquement à plusieurs reprises pour leur efficacité. Donc plusieurs prix Nobel, notamment celui de Daniel Kahneman en 2002 ou celui de Richard Thaler en 2017. Et puis plus récemment, on en a parlé il y a quelques semaines, quelques mois, avec Esther Duflo, alors qui a fait des travaux sur un sujet beaucoup plus profond, hein, qui sont sur la lutte contre la pauvreté dans le monde, mais en tout cas largement basé sur les recherches en sciences comportementales et les expérimentations qui vont avec. Alors peut-être juste, du coup, pour reconnecter comment justement ces sciences comportementales sont utiles dans le cadre de nos enjeux d'expérience augmentée, c'est tout simplement que les sciences comportementales, elles nous aident à comprendre quoi ? Elles nous aident à comprendre comment se font les processus de décision chez les humains, quels sont les facteurs qui nous influencent, quels sont les biais cognitifs qui s'appliquent. Et là, encore une fois, on est sur quelque chose d'universel, hein, comme pour les sciences du bonheur. Ce ne sont pas des biais qui seraient propres à une culture ou à un type de client. On est sur quelque chose d'universel, donc qui sont fondamentales à comprendre. Et une fois qu'on les maîtrise, qu'on peut du coup, sur lequel on peut s'appuyer de façon quelque part infinie, en fait, dans le déploiement des expériences.
Je voudrais juste, pour finir un petit peu les exemples que je pouvais montrer tout à l'heure, c'est de démontrer qu'aujourd'hui, ce n'est plus simplement le lieu de vente en tant que tel, mais tous les nouveaux espaces peuvent devenir des lieux de vente. Je donne un exemple, les appartements. Combien d'appartements, combien de marques maintenant se font vendre à travers les appartements qu'on peut visiter, et tout est achetable dans cet appartement. Là, c'est à Berlin, mais il y en a plein à Paris. Ça, c'est un hôtel. C'est la marque VIP, qui est une marque de poubelles de luxe. Ce sont des poubelles de luxe qui ont créé d'autres produits de bouilloire, etc. Et ils ont créé un hôtel en plein milieu de la forêt. C'est au Danemark, c'est une marque danoise. Et qui est un hôtel absolument fabuleux, de grand, grand luxe. Et vous pouvez acheter tout ce qu'il y a dans l'hôtel. Donc, de la poubelle à la bouilloire, mais aussi le lit, la table de
lit. Vous arrivez avec un camion de déménagement.
Si vous avez envie, on vous le livre.
Vous le livrer, j'imagine bien.
Un deuxième hôtel, c'est à Venice Beach, à Los Angeles, où là, c'est pareil, vous pouvez tout acheter. Donc, ce sont des lieux où on va pour se détendre et en même temps, ça devient des lieux de vente. Pour conclure, le digital est un merveilleux outil d'optimisation du retail, mais il ne se substituera jamais aux relations humaines.
Peut-être on va conclure là-dessus. En tout cas, je vous remercie beaucoup tous les quatre et laisser le mot de la fin à Jacques, bien sûr.
Bon, j'ai été tout à fait intéressé par vos interventions à tous. Moi, ce que je retiendrai, d'abord, je ferai référence à Jonathan, la continuité entre le retail et la communication est de plus en plus intense. Et c'est aussi le O2O, offline to online. L'élément technique majeur de l'arrivée du digital, des big data, de la réalité augmentée, c'est une fluidité considérable de l'information. Une fluidité considérable de l'information qui permet finalement de réagir pratiquement en temps réel, ou à tout le moins d'essayer de réagir en temps réel. Et d'essayer de réagir en temps réel sur les lieux de vente. Donc dans la relation avec le client, donc d'optimiser la relation avec le client. L'optimiser avec effectivement des techniques nouvelles, même si, je dirais, le fait de trouver les instants de bonheur avec un client, ça remonte à l'antiquité la plus ancienne. Disons que là, il y a une codification scientifique tout à fait intéressante. Et effectivement, c'est un des éléments de la recherche économique. Mais voilà, donc un flux d'informations considérable, 115 millions, je dirais, de clients en fichier chez Marriott, 10, 15 millions chez LVMH, et certainement beaucoup plus demain, parce que cette accumulation est permanente. Mais pour autant, cette accumulation, elle permet d'avoir des réactions beaucoup plus efficaces en termes d'optimisation de la relation client, mais aussi, et Xavier Dalloz l'a rappelé tout à l'heure, d'amélioration de la rentabilité d'ensemble. Il y a les deux aspects, et ces deux aspects sont indissociables. On ne va pas créer des lieux de vente tout à fait prestigieux où il n'y a que des rencontres et pas de vente. C'est absolument évident. Mais quand on va vers le culturel, et Antoinette Lemins l'a bien rappelé, quand on va vers le culturel, quand on va vers l'humain, et vous aussi vous vous y intéressez de très près, là on arrive à la nécessité d'avoir des gens de mieux en mieux formés. Plus on a d'informations, et plus il faut être bien formé. Et plus il faut avoir des lieux qui sont des lieux où on théâtralise la relation. On crée en fait des rituels, mais des rituels qui doivent changer extrêmement souvent parce qu'on est face à une population, on va vers 10 milliards d'hommes, où il y a une infinité de diversité et l'universalisation en matière de vente, elle n'est pas encore pour demain. Il y a des cultures différentes, il y a certains produits cultes qui attirent, je dirais, une bonne partie des populations, mais il y a aussi des singularités de plus en plus fortes. Et cette accumulation d'informations, cette réalité augmentée, ce retail augmenté, accuse en même temps la singularité. Donc on est pris entre deux extrêmes, l'universalisation et une relation client améliorée et une singularité de plus en plus grande. Le seul élément qui n'est pas touché, et Delphine en a parlé tout à l'heure, c'est la création. Il n'y a pas de création augmentée. La création est l'élément de rupture et il le restera toujours. Et cet élément de rupture, c'est celui dont on parlera au prochain sommet, c'est la disruption créatrice. Merci beaucoup.